du jour avec le Père Willem.
Aujourd'hui, proclamer la résurrection de la chair. La crise actuelle, avant d'être économique, sociale, politique et même morale, est une crise de l'intériorité. Nous sommes malades spirituellement dans notre être profond. Souffrance physique, suicide, solitude, sentiment de perte de sens n'en sont que quelques symptômes. Or, nous cherchons des solutions extérieures à nous-mêmes. Sans recouvrer sa profondeur, l'homme perd le sens de son existence, collective et individuelle. Collective parce qu'individuelle. Viktor Frankl parlait de névrose existentielle. Comment ne pas voir dans ces différents symptômes des souffrances de l'âme? Pour y faire face, la réponse essentielle de notre société consiste à mobiliser deux leviers. La pharmacologie et le consumérisme. Chacun sait les chiffres de surprescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs dans notre pays. Si la psychiatrie biologique et médicamenteuse est un progrès incroyable de ces dernières années, qui a littéralement transformé le quotidien de ceux qui en bénéficient, ces excès ne peuvent pas laisser indifférents, interrogeant d'ailleurs peut-être davantage les pratiques médicales que la demande des patients eux-mêmes. Une façon de lutter contre les passions individuelles et collectives au sens de maladie de l'âme est de se garder d'images, de sons, d'informations, de messages, de produits promus par le marketing, un peu comme si nous voulions saturer tous nos sens pour éviter de souffrir, d'affronter la solitude, la peur de l'abandon et les questions existentielles. Les approches psychiatriques sont insuffisantes à la fois pour les comprendre et pour les accompagner. De nombreuses manifestations de mal-être doivent donc être considérées comme d'authentiques maladies spirituelles. Alors, quel rapport avec l'évangélisation? Si les chrétiens ne se sentent pas concernés par l'âme de leurs contemporains, sa nourriture et sa santé, alors qui le fera? À cet égard, l'expérience des thérapeutes d'Alexandrie et des Pères du désert nous est aujourd'hui très éclairante. Ce sont des pionniers du monachisme qui se retirent à la fin du IIIe siècle dans les déserts d'Égypte, de Palestine et de Syrie. Le désert étant dans la Bible le lieu de rencontre avec Dieu. Saint Ambroise le Grand, Saint Antoine le premier d'entre eux, Saint Athanase d'Alexandrie, Saint Grégoire le Grand, Jean Cassien, Jean Climac en sont quelques-uns des plus connus. Par leur connaissance de la tradition, par leur pratique de la sèse et de la vie intérieure, leur vie de paternité spirituelle, ils ont développé une doctrine anthropologique très dense. Pour eux, l'homme trouve son bonheur et sa jouissance en Dieu. En revanche, coupé de Dieu, l'homme cherche à étancher sa soif de jouissance sous la forme de passions partielles. Ils en dénombrent 8. Le gastrimargie, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, l'acédie, l'orgueil et la vaine gloire. Si ces termes peuvent apparaître désuets ou obscurs à travers ces passions, les pères interrogent de façon clinique le rapport que l'homme entretient respectivement avec la consommation, la sexualité, l'argent, l'image de soi, son avenir, etc. Deux d'entre elles semblent contemporaines, le gastrimargie et l'acédie. La première pourrait se définir de façon moderne par la passion excessive de la consommation et comprend toutes les dépendances pathologiques, alcool, nourriture, tabac, médicaments, jeux. Ce qui est en question n'est pas l'objet consommé en lui-même, mais la manière de le consommer. La seconde, la cédie, est définie par les pères du désert comme une atonie de l'âme, se manifestant par de la langueur et du découragement. Elle est engendrée par la tristesse et la colère, mais sans s'y confondre. Elle est plus un état qu'une passion à proprement parler. Comment ne pas reconnaître ces symptômes dans ceux de notre dépression collective? La médicalisation de ces symptômes est nécessaire mais insuffisante. Les considérer aussi comme l'expression d'un mal-être spirituel proprement dit permettrait de mieux accompagner ceux et celles qui la vivent. Des travaux de recherche actualisant les recommandations et le patrimoine thérapeutique des pères du désert sont clairement pertinents dans un contexte d'évangélisation pour développer une authentique science de l'âme dans laquelle la tempérance, le recueillement, le silence, la frugalité, la reconnaissance, le pardon, le don, l'humilité trouveraient leurs indications. Bien au-delà du cadre thérapeutique, il est urgent de considérer que notre société ne souffre pas que de pathologies somatiques, psychologiques ou psychiatriques, mais aussi de maladies spirituelles. Et les chrétiens peuvent être de ceux qui aident à redonner une réalité, une actualité et un contenu à l'âme humaine. Quelle est sa disposition? De quelle passion est-elle atteinte? Vers quoi est-elle tournée? Le soin de l'âme se trouve donc être un enjeu essentiel d'évangélisation. Oui, le soin de l'âme. Et cette attention consiste à l'aider à se tourner vers la source originelle et éternelle de la vie dont chacun d'entre nous est porteur. Finalement, cette vie n'est jamais que la réalisation de ce mouvement si souvent cité par l'évangile de Jean, passer de ce monde à celui du Père. Dans une démarche d'évangélisation, il importe de montrer qu'être chrétien n'est pas une sociologie, une psychologie ou une morale, mais une expérience de transformation de sa vie et de son être au monde, dont le maître d'œuvre est l'Esprit Saint. Il y a autant de façons d'être chrétien que de baptiser. On peut donc imaginer d'innombrables personnages de fiction. Flics, avocats, employés, ados, sportifs, taulards ou journalistes, par exemple, qui puissent incarner cette expérience. Quelques conseils pour inspirer les scénaristes, ne pas en faire des petits saints, les montrer en cours de conversion, ordonner concrètement leur existence et leurs activités au service de la vie, les rendre attentifs aux plus fragiles, les mettre en situation de pardon reçu et donné, creuser leur vie spirituelle, leur faire trouver leur dynamisme explicitement en Dieu et les rendre rayonnants d'une humble joie dont la source vient du cœur, leur faire désirer d'être toujours plus dociles à l'esprit, assumer leur espérance en la résurrection. Vivre un humanisme au service de la vie, révéler une anthropologie épanouissante, proclamer la résurrection de la chair, oui, voilà, les champs de la mission évangélisatrice apparaissent immenses.